Je donne tout de suite la parole à M. Yezid Arteta, qui est à la fois, enfin, qui est aujourd'hui de l'Université de Barcelone, mais qui est un ancien commandant des FARC.
Gracias. Bueno, salud para todos y todas. Bueno, voy a hablar en español porque francés todavía estoy lejos. Bueno, yo voy a hacer como una especie de breve recorrido sobre lo que he llamado yo el fin del ciclo de la lucha armada en América Latina. Un amigo investigador colombiano muy reconocido en los medios académicos, Darío Villamizar, viene escudriñando, viene haciendo una investigación muy profunda sobre lo que han sido los movimientos armados en América Latina desde 1953, con el movimiento 26 de julio liderado por Fidel Castro, a el año 2016, que es donde prácticamente se va cerrando como la negociación con las FARC y está el preámbulo de lo que es la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Durante este periodo hay documentadas 418 organizaciones armadas en América Latina. En 19 variables, es decir, hubo guerrillas marxistas, leninistas, guerrillas maoístas, guerrillas trotskistas, nacionalistas, guerrillas indigenistas, guerrillas de toda naturaleza, en 23 países de América Latina. Es decir, casi no hubo un lugar del continente, salvo los Estados Unidos, en los que no se hubiese procurado algún tipo de actividad guerrillera con fines ya sea de carácter nacionalista o para cambiar el régimen político imperante. De esas guerrillas, solamente dos obtuvieron el poder por la ecuación de las armas: la Revolución Cubana el 26 de julio y posteriormente la Revolución Sandinista en el año de 1979. De ahí en adelante, es casi como un historial, pues yo no diría de fracaso, pero casi. Muchos de estos grupos desaparecieron, otros entraron en pugnas de carácter interno, otras fueron más listas y lograron alcanzar algún tipo de negociación más o menos satisfactoria. Pero en términos generales, todas estas agrupaciones se fueron perdiendo en el camino de la lucha. Esto también generó los grandes debates de los intelectuales de los años 70, bueno, revolución en la literatura, literatura en la revolución, Regis Debray, foquismo, golpe de militar en el 73, la lucha armada es la única vía, la lucha armada ya no sirve para comprar nada, etcétera, etcétera. Muchas de estas guerrillas desaparecieron por varios factores, porque las condiciones que dieron el origen para el origen de estas guerrillas desaparecieron, otras porque tenían un programa maximalista, otro porque bueno, las luchas internas. En Colombia tenemos escuela de este tipo de luchas internas, una especie de Saturno comiéndose a sus propios hijos, autoritarismo en algunos casos, falta de preparación en otros, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay cinco jefes de Estado en algún momento pasaron por el sedazo de la lucha armada en América Latina. Pepe Mujica con los Tupamaros en el Uruguay, Dilma en el Brasil, Daniel Ortega, sempiterno presidente de Nicaragua, Raúl Castro, el actual presidente de Cuba, y Sánchez Serén, el actual presidente de El Salvador, que fue militante comandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Quedaron dos guerrillas en el sentido estricto, porque yo pienso que el tema del zapatismo no lo catalogaría estrictamente en lo que son las guerrillas latinoamericanas. Yo recuerdo por allá en el año de 1900, el primero de enero de 1994, nos levantamos de una resaca en un bloque de las FARC en el sur, en el departamento del Caquetá, con la noticia de que hubo un levantamiento en la región de Chiapas. Por supuesto, estábamos muy contentos en medio de la resaca, porque finalmente teníamos aliados revolucionarios y aliados dispuestos a continuar con la gesta de la lucha armada en América Latina. Sin embargo, fueron casi los únicos tiros que se hicieron durante todo este fenómeno del zapatismo. Y en el caso de Sendero Luminoso, que en realidad no podría yo, con toda la respetabilidad que esto, es decir, de otros analistas, no lo considero ya propiamente un movimiento guerrillero, muy similar, por ejemplo, a lo que incluso en eso se equivocan, pienso yo, muchos de los dirigentes de la izquierda colombiana cuando hablan de una negociación con el Ejército Popular de Liberación. Es decir, en realidad no son guerrillas, sino que son grupos que utilizan algún tipo de mampara de carácter político para realizar algún tipo de negocios. Bueno, quedaron en este mapa la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las FARC, que ya lo han explicado acá, una negociación en la que pienso yo que se negoció una revolución en el papel. Yo fui muy crítico en algunos espacios en los que dije, yo no conozco el primer caso de una revolución que se haya hecho en el papel. Sin embargo, yo creo que eso demuestra un poco también, yo diría, la falta de un ejercicio político dentro de las FARC que no les permitió realmente entender el marco de esta negociación con el gobierno colombiano. Y el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla pues que ha pasado por todos los momentos y que se encuentra, pienso yo, con un escenario bastante difícil, porque cualquiera de los dos caminos son palos, son como esas películas de Indiana Jones, en las que si mira para allá, pues hay cuatro tigres, si mira para este lado, hay un río pues lleno de cocodrilos. El ELN, cualquiera de las dos salidas que le quedan, que es continuar en la guerra, prácticamente es quedar reducido a absolutamente a nada, sin ningún tipo de incidencia real en el país, y una negociación, si se hace en el marco de lo que se hizo con la FARC, pues ya están los resultados a la vista en el balance que se ha hecho sobre los acuerdos de paz en Colombia. Las FARC realizaron su séptima conferencia en el año de 1982, ahí elaboraron un plan estratégico. Yo creo que hasta ese momento la FARC era una organización pequeña, pero con un alto impacto político en las zonas rurales del país. Yo ingresé a la FARC justo en ese momento, en un momento en que la FARC tiene un reconocimiento político muy importante en el territorio nacional y que a pesar de ser pequeña, quizás éramos unos 2.500 hombres, teníamos una capacidad política en la periferia del país y un reconocimiento político muy importante. Eso fue lo que nos permitió, y eso hay que decirlo ahora, obtener, cuando surge la Unión Patriótica, algunas alcaldías, que en realidad era producto del trabajo político que había cristalizado las FARC durante todos esos años. Yo estaba comandando en el departamento de Nariño y sacamos dos alcaldías en el municipio del Tambo y en el municipio de Leiva. Entonces, sin embargo, hay una situación que se revierte posteriormente, y es cuando la FARC entra como en un periodo de militarización. Es decir, la FARC se propone crear un ejército, y en realidad lo consiguió. La FARC consiguió montar un ejército, un subejército de casi 18, 20 mil hombres armas, distribuidos en el territorio nacional, con mandos, con armamento ligero, con armamento agregado, con logística y con una base social. Una base social que es lo que le permitió a la FARC resolver todos los problemas de la guerra y todos los problemas logísticos. Sin embargo, creo que ahí hubo un entendimiento errático de lo que era un proceso insurreccional, un proceso revolucionario. La FARC, y yo creo que ahí probablemente Manuel Marulanda Vélez, que ha tenido grandes aciertos en la conducción de la guerra, pero creo que ahí fue un desacierto. Se creyó que una operación insurreccional era una operación matemática, y era crear un determinado número de cuadros, crear un determinado número de compañías de combate, crear escuelas de formación para especialistas en inteligencia de combate, topógrafos, enfermeros, médicos de combate, y conseguir las armas agregadas para las operaciones terrestres. Pero la parte política en la FARC en ese momento quedó casi que al garete, quedó casi como en una fase subalterna. Y ahí se presenta algo que realmente es bastante paradójico, es muy irónico, que un movimiento guerrillero crece exponencialmente, crece geométricamente y sin embargo se reduce políticamente. Es decir, las FARC construyen un subejército de casi 20.000 hombres con una capacidad de combate única en América Latina, incluso a pesar de todas las experiencias de Cuba, de Nicaragua, de El Salvador, pero no encuentra los lugares por donde mover ese ejército. ¿Por qué? Porque el trabajo político quedó prácticamente reducido a muy poco. Es allí cuando Eduardo menciona esos documentos en la que las FARC hace una reflexión de lo que sucedió y empieza a hablar sobre las masas y empieza de que hay que recuperar todo el sentido político del proyecto insurreccional. Pero creo que ya era demasiado tarde, muy tarde, ya había corrido mucha agua por debajo del puente, pero sin embargo este ejército le permitió a la FARC librar muchísimas guerras. Yo creo que el mundo académico tiene una deuda con el estudio, por ejemplo, de un hombre como Manuel Marulanda Vélez, porque de él solamente han hablado algunos literatos como Arturo Alape, pero siempre lo ha hecho desde una visión onírica. Y los académicos, muchos en su gran mayoría, lo han reducido a un campesino ignorante que a duras penas habrá leído algunas obras importantes de literatura, pero ese hombre campesino fue capaz de construir un ejército revolucionario de 20.000 hombres y crear una organización casi que a imagen y semejanza de él. Tanto así que los cuadros que proveeríamos de las capas urbanas, de los medios intelectuales, en un momento llegamos casi que a ruralizarnos y convertirnos en militante revolucionario desde la visión de un hombre que era meramente un dirigente campesino, un dirigente agrario. Esto es un mérito muy importante dentro del estudio de estos fenómenos políticos, sociológicos de América Latina. Pero la FARC con ese subejército consiguió librar en un momento determinado de la historia reciente de Colombia cuatro guerras de forma simultánea. La FARC en un momento estaba librando una guerra con el ejército de tierra más grande de América Latina. Las fuerzas militares más grandes de América Latina son las del Brasil, pero el ejército de tierra de Colombia es más grande que el de Brasil y que el de México. Y sin embargo, la FARC libró una guerra contra las fuerzas militares, libró una guerra contra las estructuras paramilitares, libró una guerra con el Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla, y libró una guerra con los narcos. Fueron cuatro guerras simultáneas y todas ellas con capacidad de respuesta y con capacidad de responder efectivamente con los medios bélicos y con la capacidad logística y organizativa que tenía. Sin embargo, la única guerra que perdió la FARC realmente fue la guerra mediática. Y cuando se pierde la guerra mediática, se pierde la opinión pública. Y cuando se pierde la opinión pública, por supuesto, se pierde la política. Esa fue la gran guerra que perdió las FARC. Ahora creo que durante la negociación, tres minutos, la negociación con las FARC, pienso yo que esto tiene muchos retos, esto tiene muchas, el camino realmente no está expedito. Hay muchos nubarrones, yo no soy realmente optimista sobre lo que estoy viendo, lo que estoy observando desde la distancia, por supuesto, pero al fin y al cabo, de haber estado allá adentro, conocer la naturaleza de esta organización, y es que los acuerdos en realidad no han beneficiado directamente ni siquiera a los combatientes. Yo creo que ahí las FARC se equivocó también en esta negociación. Yo creo que el ELN tiene que aprender de la negociación con las FARC. ¿Se equivocó en qué? En que de manera ingenua, y yo creo que también de manera romántica, duraron varios años discutiendo los grandes problemas del país, cuando para ellos tenía que ser importante la suerte de sus combatientes. Eso lo hizo el M-19. El M-19 era una fuerza pequeña, 700, 800 hombres. La corriente de Renovación Socialista o el Ejército Popular de Liberación eran agrupaciones mucho más pequeñas, pero lograron negociar la parte sustantiva relacionada con sus combatientes. Las FARC dejó esto para lo último y al final todo quedó suelto. Y entonces, y con esto termino, entonces yo resumo la situación en una metáfora que se me viene a la cabeza en estos días. Un chico o una chica que ingresa a la FARC a los 17 años, dura otros 17 años en la guerrilla o 20, se va haciendo viejo dentro de la guerrilla. Le han pegado un par de disparos en algunos combates que ha tenido. Conoce todo el ABC, todos los rudimentos de la guerra de guerrillas. Ese chico era un campesino, un labriego que utilizaba el machete y la pala para sembrar plátano, sembrar yuca. Y ese chico, luego de 17 años, llega a un campamento donde se negocia la paz con el gobierno, con el Estado colombiano, y resulta que después de 17 años, él tiene que volver a hacer lo mismo que estaba haciendo cuando era mucho más joven, pero con otros riesgos adicionales. Y es que tiene muchísimos enemigos, su situación jurídica es muy precaria, pero además de eso está reconviniendo a sus jefes diciendo que lo han traicionado, porque 17 años perdidos en la guerra solamente para volver a coger una pala, que era un derecho que él tenía sin haber ido a la guerra 17 años atrás, realmente no ha valido la pena. Muchas gracias y salud.
Muchas gracias. Je donne tout de suite la parole à Olga Lucia González, qui va nous parler de l'émergence et défis de la question du genre dans le processus de paix. Vous êtes chercheur associé à l'URMIS, c'est ça ? À l'Université Paris-Diderot.
Exactement. Bien, bonjour, merci. Je vais vous parler donc de la question du genre dans le processus de paix. Et quelque chose qui, enfin, les personnes qui ont suivi le référendum savent à quel point la question du genre est venue s'immiscer et à quel point elle a compté. Moi, je vais vous montrer deux choses. Une, comment justement cette question est arrivée à La Havane, comment cette discussion est arrivée alors qu'elle n'était pas apparue pendant 60 ans de conflit avec les FARC, qu'on n'avait guère entendu parler des questions de genre. Et je vais parler des conséquences de l'inclusion de cette donnée dans le processus de paix. Mais avant, je commence en donnant quelques éléments de contexte. Bon, c'est des choses qui ont peut-être un peu déjà été dites tout à l'heure, ce matin. on est dans les... Donc ce processus de paix se fait dans un contexte de fatigue, d'hostilité ou d'indifférence par rapport au FARC. Ça, on l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que dans les années 2000, parallèlement à cette fatigue, il y a une montée en force d'autres mouvements, d'autres expressions intéressantes de la société. Je vais en citer quelques-unes. C'est le mouvement paysan autour des Dignidades Campesinas, donc grande mobilisation paysanne de 2013. Il y a les mobilisations des étudiants aussi, très, très importantes, pour la défense de l'université publique. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives locales pour l'environnement. Et il y a aussi, et c'est là je vais m'arrêter un petit peu plus, des mobilisations relatives à des questions de genre. Et ça, c'est encore plus nouveau en Colombie, et c'est vraiment un trait des années 90. Il y a des mobilisations autour de deux choses, essentiellement les féminicides. C'est quelque chose de très nouveau. Vraiment, deuxième moitié, enfin, après 2010, quelques mobilisations contre des crimes atroces survenus sur des femmes. Il y a des rassemblements. Il y a aussi la loi qui a changé, qui va pénaliser les féminicides. Et il y a aussi, parallèlement, une mobilisation des secteurs LGBT, des secteurs des minorités et diversités sexuelles. Cette mobilisation, elle est encore, enfin, elle est même pas très présente sur la place publique, mais elle est présente au niveau des lobbying et au niveau d'une sous-culture, on va dire. Il y a une culture LGBT qui se développe. De plus en plus, la Gay Pride prend force dans certaines villes de Colombie. Et ces choses s'apparentent en plus au monde global. En fait, là, la Colombie, ses mobilisations pour le genre, elles sont similaires à ce qui se passe ailleurs, en Amérique latine ou ailleurs dans le monde, notamment en ce qui concerne les revendications pour les droits des personnes LGBT. Donc ça, c'est un peu le contexte. Maintenant, comment est-ce que la question du genre vient, comment elle atterrit à La Havane? Je vais le dire tout de suite, cette question, elle est arrivée simplement grâce aux féministes et grâce au fait que les féministes, les mouvements, alors en Colombie, on dit souvent mouvement des femmes, féministes, des fois, ce n'est pas accepté par d'autres, mais je ne rentrerai pas dans ces détails, mais globalement, ces mouvements, depuis les années 90, elles soutenaient, elles étaient d'accord avec la négociation donc avec les FARC, donc, c'est-à-dire qu'elles étaient opposées à toute sortie militaire avec les FARC, elles étaient opposées aux solutions de force, et donc d'une certaine manière c'était un allié des FARC, puisqu'elles leur donnaient cette légitimité en tant qu'acteurs politiques. Et dans le contexte des négociations de pourparlers qui avaient lieu à La Havane, c'était très important pour les FARC d'avoir un interlocuteur, quelqu'un qui les prenne au sérieux. Et je pense que les femmes, en plus, elles avaient depuis de longues dates établi une série de questions qui leur semblaient très importantes à faire respecter par les FARC en matière de droits des femmes. En fait, elles leur avaient déjà fait savoir. Alors, c'est donc par ce mouvement féministe que les femmes sont arrivées à La Havane. Il faut dire que ce n'était pas gagné tout de suite. Les FARC étaient un mouvement, une armée. Enfin, tout à l'heure, Yacine vient d'insister sur cet aspect, cet appareil armé, militaire. Et eux, ils voulaient avoir des interlocuteurs militaires, des personnes haut gradées de l'armée. Et ce n'était pas évident pour des femmes d'aller et de dire, voilà, il faut nous écouter. Mais après 2 ans de négociations, ils ont réussi à faire cet espace. Il y a eu 3 femmes qui ont été nommées, 2 en tant que représentantes du gouvernement et 1 en tant que représentante des FARC. Hélas, d'ailleurs, elle n'était pas colombienne, elle était hollandaise. À côté d'elle, siégeaient 17 hommes. Mais au moins, c'était déjà un changement. Et il faut dire aussi que d'autres instances importantes, d'autres institutions, organisations qui ont été constituées à ce moment-là pour... dans le cadre du conflit, pour l'explication et tout ça, comme la commission historique du conflit, il y avait des personnalités issues du monde académique qui allaient donner une explication de ce que c'était que ces conflits. Et là, pareil, on a décidé de incorporer une femme qui d'ailleurs est parmi nous, Maria M, qui représente. Mais autrement, je pense que s'il n'y avait pas eu tout ce mouvement des femmes et féministes, peut-être qu'ils ne se seraient pas rendu compte que quand même il fallait avoir une vision aussi relative au rôle des femmes dans ce conflit armé. Bon, petit à petit, les choses ont avancé et en 2014, il a été décidé de créer dans les pourparlers officiels une sous-commission de genre, c'est comme ça qu'il s'appelait, et qui devait vraiment examiner ces questions-là. Alors, à partir de ce moment-là, la participation des groupes de femmes devint plus fluide. Il y a eu 18 organisations féministes qui s'y sont rendues à La Havane, et ainsi que 10 spécialistes des violences de genre et 10 anciennes combattantes venues d'autres pays. Alors, je voudrais parler peut-être de comment... Enfin, je ne sais pas si j'ai trop le temps, puisque je sais qu'on a plein de choses. Disons que l'inclusion de ces femmes a fait que les accords de paix ont vraiment intégré une variable, ont décliné différents points par rapport aux femmes. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais je vais juste citer quelques exemples. Dans le point relatif à l'accès à la terre, on considère comme prioritaire les mères qui sont chefs de famille. Dans le point relatif à la vérification des accords de paix, on a insisté sur la nécessité d'inclure une proportion de 20% de femmes. Ou dans le point relatif à la justice, on affirme la nécessité d'avoir une approche de genre dans les tribunaux spéciaux et les commissions de vérité, avec, en portant très attention à exclure de l'amnistie et du pardon les délits sexuels. Ça, c'est le genre de choses. Il y en a d'autres, mais je ne rentre pas trop dans le détail. Ça, c'est pour dire que, voilà, on a quand même incorporé vraiment sur le contenu des accords cette question-là. Maintenant, je passe à la partie quelles sont les conséquences d'inclure autres conséquences autres que celles-ci. En fait, elles ont été importantes aussi les FARC. Elles ont été importantes pour les FARC parce qu'elles ont fait en sorte que ce mouvement qui, auparavant, avait été pointé déjà par les groupes féministes en leur faisant voir que les femmes, bien qu'elles composaient genre 30 ou 40% de leurs combattants, étaient exclues des hauts dirigeants. Les FARC sont allés scruter un peu plus leur comportement par rapport aux femmes. Et là, il y a plein de choses qui ont été faites, il y a quelques recherches qui ont été menées pour montrer, enfin, qui ont mis en relief ce comportement différentiel des FARC envers les hommes et envers les femmes. Globalement, les FARC, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les FARC, dans les tâches, on va dire, basses, cuisine ou chargement d'équipement ou du bois, ce genre de choses, c'était très bien partagé. Les hommes faisaient autant que les femmes. Mais dans les tâches supérieures, les tâches de gestion, dirigeance et tout cela, il y a beaucoup moins de femmes. En fait, c'est comme si le plafond de verre s'appliquait aussi chez les FARC. Et donc ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est le problème des femmes et de leur sexualité dans les FARC. Dans les FARC, les relations sexuelles, d'après ce que... peut-être que Jesse a d'autres détails à ce sujet, mais en tout cas, d'après ce qu'on connaît par Elodie... Enfin, il y a des personnes, des chercheurs, Elodie Gamache et Rouillot. En fait, il y a un certain nombre d'études déjà qui disent comment ça se passait. C'était interdit, par exemple, d'avoir des relations sexuelles. Il fallait avoir l'avis du supérieur, mais cet avis, évidemment, il était différent selon que la personne était une femme ou un homme. Enfin, globalement, une femme, si elle demandait cet avis de temps en temps, elle était déjà considérée comme une prostituée, alors que pour les hommes, c'était tout à fait normal. Bon, ça, c'est parmi les détails. Disons qu'on va retrouver une société machiste à l'intérieur des FARC, à peu près pareil qu'à l'extérieur, hormis pour les petites tâches dont on a parlé. Mais ce qui est le plus intéressant, plus que ces détails, c'est peut-être de dire que les FARC, et notamment les femmes dirigeantes des FARC, ont commencé à prendre conscience aussi de l'importance de ces questions-là. Et elles ont décidé de porter ça parmi leurs revendications. Elles ont fondé une page web, la Mujer Fariana, femme des FARC. Elles ont un discours beaucoup plus féministe, on va dire, aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a encore une autre conséquence qui était complètement inattendue par les gens qui ont ouvert cette sous-commission aux questions de genre, c'est la question LGBT. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que les mouvements LGBT sont aussi allés à La Havane. Comment ils sont arrivés à La Havane? Ben, ils sont allés parce que ils sont allés de la main des féministes. C'est-à-dire que les féministes avaient déjà un petit peu déconstruit les rôles sexuels. Les mouvements LGBT avaient, eux, déconstruit les rôles. Enfin, disons, ils avaient montré que la sexualité aussi peut être analysée dans une construction de genre et elle peut être aussi déconstruite politiquement. Et c'est, disons que de par cette alliance, cette entente plutôt, il y avait une entente entre les mouvements féministes et les mouvements LGBT, et c'est comme ça que les LGBT vont aussi dire bah, nous aussi, on a besoin d'une visibilité. Il y a eu des choses qui se sont passées avec. Il y a eu des crimes, il y a eu dans le cadre du conflit, il y a la population LGBT qui a aussi été attaquée et qui est victime. Il nous faut aussi porter nos revendications. Alors, le mouvement LGBT va aller à La Havane. Pour les FARC, c'est une complète découverte. Faut croire, enfin, faut lire ce qui se disait. Là aussi, peut-être que Jesse a aussi des choses à nous dire sur quelle était la conception habituelle par rapport au LGBT, tout simplement homophobie absolument normale, on va dire normale dans le sens comme si c'était normal d'être homophobe. Donc, justifié de quelle manière? Je vais vous lire une déclaration d'une commandante à un journaliste qui disait « Nous venons d'une tradition très enracinée, paysanne, avec des positions très conservatrices en affaires de mœurs. La plupart de nos combattantes et de nos combattants proviennent de familles chrétiennes, etc. etc. » Donc c'est vraiment quelque chose que n'importe quel Colombien, pour ainsi dire, pourrait aussi prétexter. Voilà, je ne savais pas. Et d'ailleurs, Iván Márquez, à un moment donné, il a dit « Nous reconnaissons que les personnes LGBT ont souffert à cause de nous. Ceci était le produit de notre ignorance, mais nous n'allons pas en rester là parce que la révolution ne peut pas être homophobe. » Donc les FARC, voulant se mettre un petit peu en phase avec la société, bah, ils vont effectivement incorporer aussi leurs demandes, écouter tout ce qu'ils disent par rapport aux victimes LGBT. Par exemple, un des cas qui est documenté par l'association Colombia Diversa, c'est que les personnes qui étaient séropositives dans une des zones d'influence des guérillas, ils étaient chassés du village parce que gays, trans, que sais-je. Donc ça, c'est les choses qui ont été documentées. Le problème qu'il y a eu au moment du référendum, là j'arrive sur les conséquences vraiment politiques, c'est que au moment où s'agite donc le fait qu'on sait finalement qu'il y aura un référendum, il fallait prendre position et on savait depuis longtemps que Uribe et un secteur proche des forces armées étaient contre le processus de paix. Ça ne m'intéresse pas dans ce cadre-là. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette question de l'inclusion du genre a fait basculer d'autres secteurs qui étaient plutôt favorables aux accords de paix ou qui étaient plutôt indifférentes, mais qui vont désormais se positionner différemment. Je pense d'abord à l'Église catholique. L'Église catholique, en Colombie, avait soutenu les accords de paix, vraiment à fond. Luis Augusto Castro, qui était le président de la conférence épiscopale, au moment où les accords étaient au plus bas, tout le monde était démoralisé, de la calle, le négociateur disait « ça va plus », c'est lui qui disait « non, à présent il faut avoir de la patience, le processus de paix semble interminable, il y a des soupçons et tout ça, mais ceci, ce n'est pas le cas, il y a des difficultés, bon, etc. » Donc c'est un secteur qui avait soutenu le processus de paix au moment du référendum, et à mon avis, lié à ces questions du genre, de l'inclusion du genre, l'Église catholique, elle ne va pas inviter à voter non, elle va tout simplement s'abstenir. Mais c'était déjà un coup important. Et surtout, l'autre secteur qui, lui, par contre, a été vraiment l'étendard du non, ce sont les églises chrétiennes, le pentecôtistes. Je n'ai pas le temps de développer ce que c'est que le pentecôtisme en Colombie, en Amérique latine, globalement, il y a 20% de pentecôtistes en Colombie, et c'est croissant et croissant. Enfin, c'est des groupes d'ailleurs liés aux partis politiques qui ont actuellement 15 représentants au Congrès. Dans toutes les et par ailleurs, dans toutes les communes de Colombie, vous avez au moins un conseiller municipal pentecôtiste, qui professe ce credo, peut appartenir à un parti quelconque, mais ils sont c'est des gens très prosélytistes. Ces secteurs-là, dans ces secteurs-là, alors qu'ils n'étaient pas nécessairement pour le non, ils vont se radicaliser avec cette question du genre. Et là, ils vont aussi l'exprimer très clairement. J'ai le cas de un de ces personnages, qui est Marco Ramírez, un conseiller municipal de Bogota, qui se fait appeler le conseiller de la famille. Lui, il était favorable aux accords de paix, et puis, ce qu'il disait après, au moment du référendum, le pacte du gouvernement avec les FARC a une indéniable motivation athée marxiste. Dans ses prêches, il expliquait « Mes chers aimés, avez-vous réalisé que le président Santos a décidé de gouverner au service de l'agenda homosexuel ?» Voilà. Des choses comme ça se sont produites. Et ça a certainement eu une incidence dans le nom qu'on connaît. Et cela a fait que les accords, en fin de compte, au moment de la réécriture des accords, il y a eu des conséquences. On a cherché à purger toutes les... Moi, je me suis amusée à prendre les deux versions, celle qu'on appelle du théâtre Colón, la deuxième et la première. Enfin, j'ai contrasté. Et effectivement, on peut voir comment le mot « genre », déjà, il y avait 113 mentions dans la première mention, on a divisé par trois. Globalement, on a essayé de, au moins dans la terminologie, limiter cela, tout en gardant, voire en augmentant les mentions aux femmes. Dans la première version, par exemple, il y a 185 mentions aux femmes, dans la deuxième version, il y a 209 mentions aux femmes. En fait, ces églises, elles se disent... favorables aux femmes, elles se disent, être d'accord avec le fait que des prérogatives spéciales soient données aux femmes, mais elles sont, là-dessus, il n'y aurait pas eu de problème, mais c'est l'homophobie qui va poser problème à ces églises, et c'est une donnée qui, selon moi, n'a pas été assez analysée. En effet, quand on regarde un peu les personnes qui commentent le nom et qui commentent ces questions dans la presse colombienne ou dans des articles académiques, on va trouver un argument qui est le suivant. Oui, le nom, à cause de religion, on va dire, c'est une manipulation. Ce sont des menteurs, ce sont des gens qui ont inventé l'idéologie de genre, qui ont dit qu'il y avait quelque chose qui s'appelait l'idéologie de genre. C'est complètement faux, l'idéologie de genre n'existe pas. Ce que nous voulons, c'est l'égalité. Mais en fait, pour moi, ça, c'est une fausse route. En fait, c'est pas un problème sémantique. Les gens qui ont voté non, ont voté non. Ceux qui étaient, disons, homophobes, ont voté non parce qu'ils savaient qu'il y avait une inclusion d'une population qu'ils n'aimaient pas. Et donc, je pense que c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre assez au sérieux ces prises de position. Et il faut prendre en compte, il faut savoir dans quel contexte elles se produisent. Elles se produisent dans un système où avancent les églises pentecôtistes, qui, elles, contrairement aux églises catholiques et protestantes, sont complètement fermées aux questions de diversité sexuelle. C'est-à-dire que, aussi bien là récemment, le pape François, mais même plus anciennement, les églises, les monothéismes, ont avancé dans ces questions-là. Mais les églises pentecôtistes latino-américaines et colombiennes sont vraiment complètement dogmatiques là-dessus, avec une vision de la famille complètement traditionnelle. Il faut aussi voir que ces secteurs vont quelque part rentrer dans une histoire colombienne des années 50, qui a été évoquée ce matin, qui est un conservatisme religieux. En fait, la guerre en Colombie des années 40 et 50 avait une forte composante religieuse, la défense du crucifix, Laureano, il se prenait un peu pour un croisé de Christ, donc dans la Colombie. Donc tout ça, ça fait du lien avec des secteurs plus extrémistes aussi, de l'Opus Dei, etc., qui restent très vivants en Colombie. Pour moi, donc, pour conclure, nous sommes ici devant quelque chose qui relève d'une transformation anthropologique profonde. Ce sont les nouvelles relations de genre. Ce qu'on voit et qui va continuer, enfin, à mon avis, ça va continuer. Ça, d'ailleurs, on le voit, le backlash, c'est-à-dire les reculs, on les voit dans d'autres pays. On l'a vu en France avec la manif pour tous. On l'a vu aux États-Unis avec les questions des toilettes pour les trans. Donc, ça, c'est des manifestations qui ne sont pas proprement colombiennes. Mais par contre, ces acteurs-là, bah, il va falloir en tenir compte et les affronter sérieusement. Au lieu de dire non, c'était des manipulateurs, et des gens qui les ont trompés avec l'idéologie de genre. Voilà.
Merci beaucoup, Olga Lucia González, pour cet éclairage intéressant. À vous.
Merci beaucoup.
Donc vous venez de Lyon, hein,
de l'Université de Lyon 2. Donc merci beaucoup et merci aux organisateurs d'avoir eu l'initiative de ce colloque et de m'y avoir convié à intervenir. Ma communication a pour titre le processus de paix avec les FARC au regard du bilan des processus de paix en Amérique centrale. Il se trouve que donc depuis que les négociations avec les FARC avancent au point même de parvenir à un accord de paix, ça me renvoie à des recherches que j'ai faites il y a déjà quelques années sur la comparaison entre les processus de paix donc, qui avaient lieu en Amérique centrale dans les années 90 et ceux qui avaient lieu en Colombie en même temps. En tout cas, disons, les négociations avec quelques groupes de guérillas qui avaient lieu en Colombie en même temps. Et lorsque je vais commencer un peu par des anecdotes, mais lorsque je faisais ces recherches, je faisais des entretiens donc, auprès à la fois des responsables politiques, hein, donc des anciens guérilleros devenus politiciens, et puis des universitaires. Et à la fin des entretiens, systématiquement, je posais la question sur la comparaison avec l'autre cas, hein, puisque c'était mon sujet de thèse. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la pertinence de mon sujet de thèse? Et les Colombiens me disaient, bah, oui, bien sûr, vous avez raison. Ils mettaient sans arrêt le lien entre les deux processus. Ils disaient qu'il y avait beaucoup de Colombiens qui avaient participé aux négociations, ce qui est vrai. Il y avait beaucoup de Colombiens qui avaient participé ensuite à la Commission de la vérité. Ensuite, il y a eu beaucoup de Colombiens qui sont allés étudier ces processus, qui ont essayé de comprendre, enfin de faire le parallèle. Et donc, voilà, j'étais rassuré sur ma comparabilité. Quand je posais la question aux Salvadoriens, ils me regardaient en me disant « Va revoir tes leçons de politique comparée numéro 1 », parce qu'ils me disaient « Finalement, il n'y a rien à voir entre ce qui se passe au Salvador en ce moment, dans les années 92-93, et en Colombie. Au Salvador, il y a un accord de paix donc total entre la guérilla et le gouvernement. En Colombie, ça n'est qu'un accord qu'avec quelques groupes armés à ce moment-là. Au Salvador, l'accord de paix est un accord de paix intégral qui inclut tout l'ensemble de choses. En Colombie, à l'époque, c'était juste avec quelques guérillas et encore, ça a été un accord de paix vraiment à minima. Et seul, à ce moment-là, il y a eu la constituante qui a permis une forme de participation politique. Et au Salvador, donc, il y a eu non seulement une participation politique de l'ancienne guérilla, mais il y a eu une réduction de l'armée, il y a eu une commission de la vérité, enfin, il y a eu des choses sérieuses. Donc on avait un vrai processus de paix d'un côté et puis de l'autre côté, on avait des éléments... Donc, qui allait dans le sens d'un processus de négociation, mais pas tout à fait. Cette comparaison inégale était en quelque sorte renforcée par ce qui s'est passé quelques années plus tard, dans les années 90, deuxième moitié des années 90. Donc l'ancienne guérilla salvadorienne se transforme en parti, se présente aux élections. Dans un premier temps, elle obtient des résultats électoraux décevants, mais elle se maintient, elle devient le premier parti d'opposition. Elle obtient régulièrement entre 30 et 40% des voix, et puis elle finit par remporter les élections au niveau local. Et ensuite, au niveau national, on l'a évoqué tout à l'heure, avec Sánchez-Hélène, donc ça fait deux mandats présidentiels que le FMLN est au pouvoir, enfin, le parti politique FMLN est au pouvoir au Salvador. En Colombie, la force politique issue de la guérilla, donc du M19, participait à la constituante, mais disparaissait rapidement. Et en parallèle, les FARC se renforçaient, le conflit se renforçait. Et donc tout ça allait dans le sens de dire, ben voilà, d'un côté, ça a fonctionné, de l'autre, ça n'a pas fonctionné du tout. Du coup, maintenant, aujourd'hui, cette perspective, elle s'inverse, et on l'a entendu encore ce matin. Elle s'inverse, donc on a désormais un processus de paix en Colombie, donc qui est un processus de paix complet, intégral, avec Ben, elle n'est pas intégrale au sens où le LN ne participe pas, mais avec les FARC, il y a tout un ensemble d'éléments de négociation, à la fois sur le fond, sur la réinsertion, etc., etc., sur la participation politique. Et donc on a un accord de paix en bonne et due forme. Et ce que disent un certain nombre d'observateurs, et je reviendrai là-dessus, c'est que l'un des dangers qui guette la situation en Colombie, c'est ce qui se passe en Amérique centrale depuis la fin de la guerre, c'est-à-dire en gros... La violence sociale et la présence des malas en Amérique centrale, et que cette situation on devra faire attention à ne pas reproduire cette situation en Colombie. C'était un terme que vous aviez employé tout à l'heure sur cette idée que voilà, il y a ce miroir renversé, merci beaucoup, par rapport à la situation d'Amérique centrale. Alors moi je vais essayer donc quand même malgré ça de maintenir la comparaison et d'essayer de montrer un petit peu donc un certain nombre d'éléments qui ont eu lieu donc en Amérique centrale et en particulier au Salvador dans la décennie 90, pour essayer de voir en quoi est-ce qu'ils nous donnent un certain nombre d'éléments de réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui. D'autant plus qu'on a ces effets un peu de, toujours en miroir renversé, ces idées des accords de paix en quelque sorte modèle. L'accord de paix du Salvador a été mis en avant beaucoup comme l'accord de paix modèle par les Nations Unies, et donc l'accord de paix qui devait être en quelque sorte répété. Et aujourd'hui, sur l'accord de paix en Colombie avec les FARC, il y a beaucoup cette idée que voilà, c'est un premier accord de paix après la CPI, un accord de paix important, et qui pourrait être un modèle pour d'autres processus. Et donc on retrouve un peu cette idée de, voilà, quelques 25 années de différence, cette idée donc des accords de paix, donc qui deviennent des accords de paix de référence. Alors pour ça, donc dans ma communication, je voudrais revenir sur deux choses. Un premier retour rapide sur les processus de paix en Amérique centrale pour essayer de montrer justement les points de comparaison avec ce qui se passe en Colombie aujourd'hui, et puis surtout montrer des choses qui sont communes et qu'on dit beaucoup, et puis des choses qui sont communes et dont on ne parle pas aussi beaucoup. Et puis ensuite revenir un peu justement sur les évolutions qui ont eu lieu en Amérique centrale, ce qu'on pourrait d'une certaine façon qualifier comme un succès politique et institutionnel, et en même temps à une situation de violence sociale, et je vais y revenir tout à l'heure. Alors, si on fait un petit retour en arrière donc, sur les processus de paix en Amérique centrale, qui ont eu lieu dans les années 90, pour mémoire, on a des conflits armés qui durent une dizaine d'années, un peu plus au Guatemala, mais en gros une dizaine d'années, qui voit donc au Guatemala et au Salvador des guérillas de type révolutionnaire contre des régimes civils, mais avec des forces militaires particulièrement importantes, et le soutien évidemment des États-Unis, donc qui vont soutenir de façon très très forte ces gouvernements au Salvador et au Nicaragua. Au Salvador et au Guatemala. Et au Nicaragua, on a la situation inverse, c'est-à-dire un régime sandiniste, donc issu de la victoire des sandinistes lors de la révolution de 79, et un mouvement armé contre-révolutionnaire, donc la Contra, qui essaye de lutter contre ce régime révolutionnaire. Dans les trois pays, on a un contexte de recherche de paix négociée, avec une très forte composante régionale, en particulier Contadora. Et les Colombiens disent, on y était, à Contadora, vous voyez bien qu'il y a un lien. Bon. Donc, forte composante régionale et internationale. Fin de la guerre froide, qui permet en quelque sorte d'accélérer ces négociations et d'imposer que la seule solution est une solution politique, négociée, dialoguée entre gouvernement et guérilla. Et l'idée que ces accords de paix doivent en quelque sorte avoir trois éléments que l'on va retrouver dans chaque accord de paix, avec des éléments plus ou moins importants, mais la question de la démilitarisation, la fin du conflit armé, la question des réformes politiques, donc la question de la démocratie, de la possibilité de participation politique, et puis le troisième aspect qui est tout l'aspect de justice, mémoire, réconciliation, donc savoir ce qui s'est passé, comment on va juger, est-ce qu'on va amnistier, etc. Donc ces trois composantes qu'on retrouve à peu près partout et qui là vont être au centre de ces négociations. Mais avec des trajectoires qui sont très différentes selon les trois pays, et donc c'est... L'idée, justement, de ne pas écraser un peu l'Amérique centrale selon un seul modèle qui serait appliqué partout. Au Nicaragua, on a des négociations qui avancent de manière très importante entre le gouvernement sandiniste et les Contras. Mais il y a les élections de 1990 et les sandinistes perdent ces élections et donc perdent le pouvoir. Et donc il n'y a plus de sandinistes au pouvoir, donc il n'y a plus de guerre, donc il n'y a plus de processus de paix. En gros, et pour aller vite, faute d'adversaire, il n'y a plus de négociation. Le conflit se termine et le processus de paix va se résumer à quelques mesures de réinsertion pour les anciens membres des Contras, avec tout un ensemble de limites, mais vraiment que l'aspect de démilitarisation des Contras. Et en quelque sorte, en 90, la famille nicaraguayenne se réconcilie autour de la figure de Doña Violeta. Hein, donc, voilà. Salvador, donc 3-4 ans de négociations entre 89 et 92, un accord de paix qui mène effectivement à la fin de la guerre, avec un calendrier de démilitarisation qui touche à la fois la guérilla et l'armée. Donc l'armée va être, la moitié des effectifs de l'armée vont être démilitarisés, les bataillons anti-insurrectionnels vont être démobilisés. Des réformes politiques, tout en respectant le calendrier électoral qui existait, la participation politique de l'ancienne guérilla et un volet très ambitieux en matière de mémoire et de réconciliation, puisqu'il y a une commission de la vérité qui est créée pour faire un travail de commission de la vérité sur un certain nombre de faits. Évidemment, le rôle des Nations Unies est central pendant la négociation et après, comme garant de ces accords de paix. Et puis enfin, donc, le cas du Guatemala, donc, qui est un processus un peu, en fait, une copie de ce qui s'est passé au Salvador, pour aller vite, mais dans une inégalité du rapport de force, c'est-à-dire qu'autant il y avait une forme d'égalité militaire au Salvador, autant ce n'était pas le cas du tout au Guatemala, et donc cette position où le gouvernement est en position de force. Par conséquent, c'est à peu près le même accord, mais dans un contexte déséquilibré. L'armée est très peu touchée. Les questions de mémoire sont relativement peu présentes dans l'accord de paix. Mais paradoxalement, cette situation déséquilibrée va faire que dans l'accord de paix, certaines choses vont être reconnues qui ne sont pas reconnues, par exemple, dans l'accord de paix au Salvador. D'abord, le fait qu'il y a un conflit armé, qu'il y a une guerre, ce qui n'était pas le cas dans le cas du Salvador. Enfin, en tout cas dans l'accord de paix, et une réflexion dans l'accord de paix sur les causes de ce conflit, et le fait que les principales victimes de ce conflit, c'est les communautés indigènes, et par conséquent le fait que l'accord de paix doit œuvrer pour aider aux communautés indigènes. Le problème, c'est que ça n'a jamais été mis en œuvre. Mais bon, dans l'accord de paix, il y a cette idée là. Sur les trois points centraux des accords, je pourrais faire une petite comparaison. Les situations sont très contrastés selon les pays. Si on regarde la question de la fin du conflit armé, c'est une réussite partout. C'est-à-dire que partout, il y a une dissolution des guérillas, partout, il y a une remise des armes. Au Salvador et au Nicaragua aussi, il y a une réduction de la taille de l'armée, de leurs moyens, de la place de ces armées dans les sociétés. Et il y a des remobilisations, mais très ponctuelles. Il y en aura un peu au Nicaragua, très peu par ailleurs. Il y a très peu d'acteurs dissidents, comme... C'est un des problèmes qui existent en Colombie aujourd'hui. Du coup, il y a une espèce d'accord qui s'impose à l'ensemble des accords, des acteurs présents. Il y a par ailleurs très peu de violence politique en Amérique centrale. Il y aura une violence évidemment sociale par la suite, mais il y a très peu de violence politique au sens de violence qui s'adresse contre les anciens guérilleros qui deviennent des dirigeants politiques. En termes de réformes politiques et de participation à la guérilla, partout... les réformes politiques vont permettre la participation pluraliste aux élections, donc tout le monde peut se présenter, y compris les forces politiques qui étaient contre l'ordre et la famille. Un certain nombre de constitutions des pays d'Amérique centrale avaient ce genre de formulation, donc on ne disait pas de qui on parlait, mais tout le monde avait compris de qui on parlait. Et donc désormais tout ça est aboli, et donc tout le monde peut participer en politique. Les guérillas se transforment en partis politiques, elles conservent d'ailleurs leur nom. Ça a été l'objet d'un grand débat en Colombie il y a quelques mois, mais en Amérique centrale, tout le monde a trouvé ça normal. Donc voilà, les guérillas gardent leur nom donc de guérilla et deviennent le FMLN en politique, le FSLN en Nicaragua. Au niveau des réformes politiques, c'est un échec. Au niveau de la participation politique de la guérilla, c'est un échec politique au Guatemala assez rapidement, mais au Salvador et au Nicaragua, comme j'ai dit tout à l'heure, ces deux partis deviennent rapidement des partis d'opposition, puis conduisent donc à un certain nombre de victoires électorales, et on l'a évoqué tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a deux anciens guérilleros au pouvoir, donc au Nicaragua et au Salvador, avec des dynamiques un peu différentes, mais Ortega au Nicaragua et Sánchez Serén au Salvador. Donc peut-être que ce qui faisait les pintas pendant le référendum Timochenko Presidente connaissait un peu la situation en Amérique centrale. Et puis enfin, donc, sur la question de commission de mémoire et de réconciliation, donc rien ou quasiment rien au Nicaragua. Des commissions de la vérité au Salvador et au Guatemala, avec un travail extrêmement important donc d'enquête sur les faits qui ont été commis, mais un travail qui est sans doute plus cathartique que politique. Cathartique au sens de faire montrer un certain nombre de choses qui sont faites, diffuser ces commissions. Les rapports sont très importants et vont être très largement diffusés. Mais ce travail de publicisation, de rendre public un certain nombre de faits, qui est très important, d'identification des victimes, voire dans certains cas d'identification des responsables, va s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il va y avoir une loi d'amnistie au Salvador qui va mettre fin donc aux poursuites judiciaires. Et au Guatemala, vous le savez sans doute tous, il y a eu l'assassinat de Monseigneur Gerardi, donc, qui était un évêque catholique qui avait mené une des commissions d'enquête. Et évidemment, l'assassinat de Monseigneur Gerardi a mis assez vite fin à tout un ensemble d'enquêtes donc, et de poursuites judiciaires sur ces questions des droits de l'homme. Il y aura par la suite une reconnaissance tardive de la responsabilité de l'État, en particulier au Salvador, puisque donc près de 10 ans après la fin de la guerre, le gouvernement salvadorien reconnaîtra sa responsabilité dans ce genre de massacres qui ont été commis pendant la guerre. Aujourd'hui, il y a des jugements ou des mises en accusation, mais qui se font essentiellement par l'étranger, donc soit par la CIDH, soit par les justices espagnoles ou aux États-Unis. Les questions donc oubliées ou négligées dans les processus de paix, qui me semble importante à rappeler, parce que ce sont aussi des questions qui sont oubliées ou négligées dans les processus de paix actuels en Colombie. D'abord, la question économique et plus généralement les questions sociales. Tous ces accords de paix se font finalement dans un cadre qu'on pourrait appeler des négociations de paix libérales, c'est-à-dire l'idée de faire en sorte qu'on ne négocie pas les questions de structure de la propriété, on ne négocie pas le système économique, on ne négocie pas la mise en place de programmes sociaux qui pourraient pallier à des inégalités qui sont très présentes dans ces pays. On négocie un peu l'accès à la terre, mais dans des circonstances extrêmement cantonnées, limitées. Et il y a un peu l'idée qu'il y a des réformes politiques. Ces réformes politiques permettent la participation politique de tous. S'il y a des partis réformistes ou révolutionnaires, ils peuvent se présenter aux élections. Et s'ils remportent des élections, ils pourront mettre en place les réformes politiques et les réformes sociales en question, mais que ces réformes ne sont pas débattues dans l'accord de paix. Et puis enfin, deuxième point, c'est le devenir des anciens combattants et les programmes pour les régions affectées par le conflit. C'est sans doute le point le plus négligé des accords de paix en Amérique centrale, et je pense que c'est aussi le point le plus négligé des accords de paix en Colombie. C'est à l'idée que, bah, finalement, des programmes vont être mis en place pour réinsérer ces anciens combattants. Vous l'avez vu dans le film, ces anciens combattants sont très jeunes, et donc la question n'est pas la même que celle des anciens combattants dans les guerres européennes, hein, mais la reconversion va se faire, ou s'est faite en Amérique centrale, essentiellement soit dans le métier des armes, ou les métiers des armes de façon large, soit dans la migration aux États-Unis, souvent dans les deux. Et je vous réfère, pour une petite référence littéraire, à un ouvrage d'un romancier salvadorien qui s'appelle Horacio Castellanos Moya, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle El arma en el hombre, qui raconte justement l'histoire un peu d'un ancien... Alors, c'était pas un ancien guerriero, c'est un ancien membre des bataillons insurrectionnels, mais l'un ou l'autre, c'est à peu près la même chose. Et on le voit passer dans différentes entreprises de sécurité. Alors, pour terminer, donc, le deuxième point sur lequel je vais passer assez vite, c'est un peu donc, cette histoire des leçons d'un succès politique et d'un échec social en Amérique centrale. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut analyser ça au regard de la situation actuelle en Colombie? De très fortes différences, évidemment, dans les accords de paix au Salvador en 1992 et en Colombie en 2017. Mais par contre, ce qui me semble intéressant, ça a été dit aussi ce matin, c'est de montrer comment les accords de paix vont s'insérer dans les deux cas, dans une configuration politique et sociale, dans des institutions. Alors, ces accords de paix sont le résultat de cette configuration politique et sociale, de cette confrontation entre des acteurs, mais ces accords de paix vont modifier aussi, vont chercher à transformer cette configuration politique et sociale, mais cette configuration politique et sociale pèse aussi sur la mise en œuvre des accords. C'était toute la réflexion initiale de ce matin sur le fait que les accords de paix en Colombie doivent être mis en œuvre par des lois qui sont votées par le Parlement avec le rôle de la Cour constitutionnelle. Et tout ça est extrêmement important. On n'est pas dans les deux cas dans une configuration d'un conflit armé total qui aurait été résolu par un accord où l'on passe en quelque sorte de la guerre absolue à la paix universelle. On ne passe pas de la violence à la paix. On passe d'une situation dans laquelle il y a des institutions avec un conflit armé à une situation où il y a des institutions sans conflit armé. Et donc, du coup, dans lequel les héritages du conflit armé doivent être gérés dans le cadre de ces institutions et dans lequel, en quelque sorte, se cumulent les institutions antérieures et les accords de paix et toute la renégociation autour de ces accords de paix. Au Salvador, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a à la fois des institutions politiques consolidées. Il y a des élections. Il y a des partis politiques qui se présentent aux élections. Il y a une polarisation idéologique très forte. Et c'est sans doute l'un des derniers pays d'Amérique latine dans lequel on a une polarisation idéologique gauche-droite très forte. Et en même temps, cette polarisation idéologique ne remet pas en question la continuité de ces institutions. C'est-à-dire qu'on peut avoir un parti de gauche et un parti de droite, et tous les deux très affirmés à gauche et à droite, et tous les deux se détestant cordialement, et ces institutions qui continuent. En quelque sorte, la polarisation n'est pas, polarisation politique, hein, n'est pas un danger pour la remise en question de ces institutions, toujours en, en termes de, d'institutions. Donc l'accord de paix est bien le résultat de négociations entre acteurs, hein, gouvernement guérilla. Il reflète le rapport de force respectif à la fois au sein de chaque équipe de négociation en interne, hein, le rapport de force civil-militaire, par exemple, au sein du gouvernement, mais aussi, et on l'a vu, oui, c'est un débat qui revient, aussi des pressions qui sont faites sur eux de l'extérieur, d'autres partis politiques, d'autres mouvements sociaux, d'acteurs religieux, etc., etc. Les accords de paix ne viennent pas abolir des institutions qui préexistent, ils ne créent pas une société nouvelle, ils s'insèrent dans une configuration qui existe, et par conséquent, ils vont modifier aussi cette configuration. Mais, et là, je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux cas. Au Salvador, la guerre a duré une douzaine d'années, des institutions existent, des élections ont existé pendant la guerre. L'accord de paix ne va pas créer ces institutions, mais simplement les ouvrir à tous, sans aucun mécanisme de favorabilidad et politica, hein, sans aucun mécanisme qui permette la représentation de ces guérillas. C'est les mêmes règles électorales qui s'appliquent à toutes. Une minute, je termine. Donc le FMLN joue dans les mêmes règles du jeu que les autres acteurs. Le FMLN, donc, dans ce cadre-là, finit par remporter donc, des élections. En Colombie, donc, on a des institutions qui ont un rôle extrêmement important. Mais en même temps, cet accord de paix va aussi avoir des effets sur ces institutions. On l'a évoqué sur le plan électoral. On l'a vu aussi sur la question des droits de l'homme, etc. Mais ces institutions vont aussi peser. Et je pense que c'est une des caractéristiques extrêmement importantes dans le processus de paix. C'est que ce processus de paix se met en œuvre par des institutions qui préexistent à cet accord de paix. Et d'autant plus que le gouvernement donc Uribe, mais surtout le gouvernement Santos, ont mis en place des politiques de post-conflit avant le conflit. J'en terminerai par là, donc en mettant en avant cette parallèle, hein, en quelque sorte, et l'idée que c'est la place de ces institutions est extrêmement importante lorsqu'on analyse un processus de paix et lorsqu'on analyse les effets de ces processus de paix sur la suite. Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, David Garabet, pour cette utile analyse comparative. On va quitter l'Amérique latine pour aller tout près de chez nous.
Pas loin.
Pas loin. Pays basque.
Pays basque. Parfait.
Allez-y.
Tout d'abord, bon après-midi à tout le monde. Arratsaldeon, qui veut dire bon après-midi en basque. Et buenas tardes pour tous ceux qui parlent et qui connaissent bien la langue espagnole. Je remercie Yvon pour l'invitation. C'est un plaisir de nous retrouver ici. Hein, également à Sabrina qui a tout fait pour que tout ça marche parfaitement. Merci. Merci Sabrina. Bon, je vais être très rapide parce que le débat est beaucoup plus intéressant que les idées. C'est vrai que nous allons passer toute l'Atlantique et on revient pratiquement à la maison. Quand je parle de la maison, je parle du Pays Basque et particulièrement du Pays Basque espagnol. C'est pas très loin, c'est à 5 heures en TGV et c'est après 800 kilomètres à peine. Nous avons eu un grand problème au Pays Basque pendant plus de 50 ans. Nous avons eu un autre problème pendant 40 ans qui s'appelait la dictature de Franco. C'est pour ça que je dis que moi personnellement j'ai vécu deux dictatures, celle de Franco et celle de l'ETA, bien que moi j'ai été militant de l'ETA, ETA 6e Assemblée, tendance trotskiste, dans les années 70. Les deux
camarades.
Hein, bon, les deux camarades, de mai 68. Mais nous avons toujours refusé la violence. Moi je suis journaliste, je dirige l'hebdomadaire Cambio 16. J'ai été victime d'un attentat, parce que nous avons condamné effectivement l'attentat, le terrorisme, qui est injustifiable, du moins en démocratie. Il pouvait avoir une certaine justification quand il y avait la dictature, et le TET est un mouvement nationaliste qui est né dans les années 50, qui provient, on l'appelle, les enfants du Parti nationaliste basque, qui est le parti modéré nationaliste qui a pratiquement toujours existé au Pays Basque depuis 130 ans, qui ne pouvait pas être légal naturellement pendant la dictature, qui avait une autonomie basque importante pendant la guerre civile et avant la guerre civile, et qui a repris le pouvoir lorsque la démocratie s'est installée en Espagne après la mort du dictateur Franco, qui malheureusement est mort trop tard et dans son lit. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, l'ETA est une organisation qui a eu beaucoup de sympathie, en France en particulier. Moi, je vivais ici à Paris, je suis né à Paris, mes parents proviennent de l'exil. Mon père était vice-président du gouvernement basque en exil, il est malheureusement mort en exil. Donc, nous avons eu, depuis notre jeune et tendre naissance, le nationalisme, le drapeau basque, même, je dirais, au sein de nos premiers biberons que nous avons pris ici à Paris. Les choses ont changé, l'histoire a changé, et le problème de l'ETA, c'est qu'il avait un appui énorme. Moi, je me rappelle une manifestation ici à Paris dans les années 70, quelques-uns se rappelleront peut-être, c'était le procès de Burgos, le procès contre 5 militants de l'ETA. Nous avions organisé 5 manifestations. La première, on était à peine 3000 devant l'ambassade d'Espagne avec Santiago Carrillo, qui était le leader du Parti communiste espagnol en exil. Finalement, nous, les trotskistes de l'époque, on avait réussi à avoir 8000 personnes, mais finalement, ce qui était la plus importante, c'est celle de 60 000 personnes sur les Champs-Élysées pour réclamer à Franco l'amnistie des prisonniers de l'ETA basque. À cette époque, l'ETA est né comme un groupe idéologique très nationaliste, drapeau basque était interdit, ne commettait pas d'attentats ou des attentats qui n'avaient pas de conséquences. Le problème s'est aggravé par la suite. Je vais très rapidement parce que l'histoire est longue, parce que je veux parler du processus de paix et je veux parler de la fin de l'organisation terroriste. Donc, la mort de Franco a provoqué qu'il y ait une transition en Espagne qui s'est produite, au fait, grâce à nos manifestations, les 5 militants de l'ETA ont été graciés par le dictateur. Mais 5 ans plus tard, il en a tué 2 autres, 3 autres, 5 autres plutôt, 2 mois avant de mourir. Donc la transition politique en Espagne s'est installée, il y a eu des élections, la démocratie a été finalement reconnue, ça a été long, on a eu des coups d'État, les militaires étaient encore là, tout l'appareil franquiste policier est en place, mais tout ça a été démantelé petit à petit au cours des ans, en 1982 surtout, après la victoire de Felipe González en Espagne. Et le Parti Socialiste et les autres partis sont tous devenus au sein démocratique, au sein de la jeune et nouvelle démocratie de l'Espagne. L'Espagne est rentrée en 85 dans l'Union européenne, et donc on va très vite, mais pendant ce temps-là, l'ETA continue à sévir. Une des branches de l'ETA, les politico-militaires, décident d'abandonner, ils disent « la démocratie est arrivée, nous on arrête », c'était ETA politico-militaire. Il y a eu un accord avec le président Suárez à l'époque, et la plupart sont revenus de l'exil, et ceux qui restaient en prison sont sortis de prison sans problème. Mais l'ETA a continué. Et l'ETA a continué dans une issue, sans aucune voie pratiquement, parce qu'il est passé des attentats qui tuaient et visaient principalement les policiers, les gardes civils, les militaires et quelques juges. L'ETA voulait l'indépendance et la liberté du Pays Basque et le socialisme, il voulait faire la révolution. Son erreur, c'est de ne pas avoir changé à temps de tactique et de stratégie, de ne pas avoir fait ce qu'avait fait ETA politico-militaire, qui était l'autre branche de l'ETA. Et dans cette dérive, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé de tactique, ils ont mis des voitures piégées dans des grands magasins, comme à Barcelone, 21 morts. Ils ont commencé à changer de stratégie, ils nous appelaient tout d'un coup dans le terrorisme en pleine Europe, la socialisation de la souffrance. C'est-à-dire que ce n'était plus des objectifs militaires et policiers, maintenant tout le monde était visé. Visé des conseillers municipaux, des dirigeants politiques, des universitaires, des professeurs d'université, des journalistes, des chefs d'entreprise. La liste était tellement longue et les menaces étaient d'un tel calibre que les autorités espagnoles et le gouvernement basque ont décidé de mettre des gardes du corps à plus de 2000 personnes. Moi-même, j'ai eu 12 ans des gardes du corps. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans une Europe soi-disant démocratique, rien n'est parfait évidemment. Il faut continuer à lutter, à changer même notre propre démocratie, qu'un étudiant, un chef d'entreprise, un simple conseiller municipal, un journaliste, un professeur d'université soit obligé d'être escorté tous les matins par 2 gardes du corps. le matin, le soir, à midi. Ça s'est passé en Europe il y a à peine 6-7 ans. Et personne ne disait rien. En France, il y avait un problème. On parlait des attentats de l'ETA, mais on le parlait, bon, ça passait à Le Monde, c'était d'abord des séparatistes. Alors que moi, je les appelais des terroristes. Parce que lorsqu'on tue des enfants, lorsqu'on tue des personnes, lorsqu'on est en démocratie, ce n'est pas un acte de courage, ni un acte de nationalisme pur et simple pour défendre la cause basque. La cause basque l'ont défendu ceux qui étaient en exil. La cause basque et la cause espagnole ont défendu ceux qui étaient à la guerre civile et ils ont perdu. La cause basque et la cause espagnole, ce sont des gens, des partis de gauche ou des partis d'extrême gauche qui ont lutté quand Franco était toujours vivant. Donc voilà la grande contradiction. Mais dans cette dérive, il s'est passé que l'ETA était à bout de souffle. Dans l'an 2000, il y avait 1000 militants et plus d'une dizaine de commandos éparpillés dans toute l'Espagne. Ils commettaient des attentats à Séville, à Madrid, à Barcelone et surtout au Pays Basque. Le problème, c'est que la population basque a pris conscience que la sympathie d'avant n'avait plus guère de raison d'être contre cette organisation qui allait véritablement dans cette voie sans issue. Et donc il y a une conscience dont tu parlais toi, la conscience de la société qui a commencé à réagir timidement parce qu'il y avait la peur. C'est ce que provoque le terrorisme souvent. Il y a la peur. Les gens ont peur, les gens ne parlent pas, les gens évitent effectivement dans des villages surtout, dans des petits villages, à se prononcer. Ensuite, il y avait l'impôt révolutionnaire qui permettait à l'ETA d'avoir de l'argent. Un impôt révolutionnaire qui touchait les chefs d'entreprise, qu'ils étaient obligés de payer. S'ils ne payaient pas, ils risquaient d'avoir des problèmes. Moi, j'ai connu un familier qui a payé 15 millions de pesetas à l'ETA. Et je lui dis, mais pourquoi tu as payé? Parce que j'ai reçu une lettre. Et ce n'est pas la première lettre qui m'a fait payer. C'est la deuxième et la troisième. La deuxième disait, on sait où ta femme va chez le coiffeur. La troisième disait, on sait à quelle école vont tes trois enfants. Et tout ça provoque une tension. Dans un tout petit pays, nous sommes 2 100 000 habitants. On se connaît pratiquement tous. Parallèlement à toute cette histoire, il faut également condamner, et moi je l'ai fait en tant que journaliste toujours, j'ai toujours dit avec... L'ETA nous avait menacé en 1983 à mon frère et moi-même, et on avait été discuter avec eux à Saint-Jean-de-Luz, où ils avaient le sanctuaire, où ils étaient protégés par la France d'une certaine manière. Ils n'acceptaient pas que l'on parle qu'un crime est un crime, qu'un assassinat est un assassinat, que ce n'est pas un acte de violence et de courage, surtout dans une démocratie. On avait été la même semaine menacés par l'extrême droite. Donc ça disait que nous étions peut-être sur une bonne voie si les deux extrêmes étaient ou nous menaçaient l'un et l'autre. L'extrême droite nous disait que Hitler avait raison, qu'ils allaient nous assassiner, qu'ils allaient brûler notre rédaction à Bilbao. Donc dans ce contexte-là, tout est avancé. Et c'est vrai qu'il y a eu des erreurs impardonnables de la part du gouvernement espagnol également. Il y a eu le terrorisme d'État. Il y a eu le GAL, qui assassinait des militants basques qui étaient à Bayonne, qui étaient à Saint-Jean-de-Luz, années 85, 83, 84, 86, 87. C'était les appareils de l'État, inadmissibles en démocratie, que nous avons condamnés en tant que journalistes. Il y a eu la torture, qui n'a pas été suffisamment dénoncée par la police, par la garde civile, etc., de beaucoup de gens qui ont été détenus. Moi, j'ai eu un beau-frère qui a été arrêté pendant 10 jours sous la loi antiterroriste. Il avait perdu 5 kilos et 2 dents quand on est allé le voir 10 jours après en prison. Il faisait partie de l'ETA politico-militaire. Une belle-sœur qui a été également arrêtée, torturée à cause de son frère, mais qui n'a rien à voir. Donc toutes ces histoires, on les a connues et on se connaît. Donc personne pratiquement au Pays Basque, pendant ces 40 et dernières cinquantaines, n'a pu éviter d'être touché directement ou indirectement par l'ETA, soit à travers l'impôt révolutionnaire, soit à travers les menaces, soit à travers des assassinats, et des obsèques et des funérailles où j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis parce qu'ils étaient politiques. Assassinés, simplement. Ou par le GAL, ou par la torture, dans un petit pays où on se connaît tout le monde. Donc c'est beaucoup plus facile qu'en Colombie, où je ne vais faire aucune comparaison, avec tous les morts qu'il y a eu en Colombie et en Amérique latine, plus de 220 000, on parle de 200 et quelques mille, on parlait ce matin, au Pays Basque, il y a eu 900 morts, 900 assassinats. Et il y a eu énormément de gens qui ont été blessés et qui ont eu des séquelles. Donc, il est resté maintenant, nous sommes en, finalement, si l'ETA avait pratiquement 1000 militants dans l'an 2000, en l'an 2010, il n'en avait plus qu'une quarantaine, cinquantaine. L'organisation était à bout de souffle, parce qu'elle n'avait plus l'appui populaire. Pourquoi l'ETA a duré beaucoup plus que toutes les organisations terroristes européennes? Je me réfère à Brigada Rosa, Baderminov. Action directe en particulier. Parce que l'ETA a eu un bras politique qui s'appelait la gauche nationaliste à Bersalé, que l'on connaît également au Pays basque français. Et cette gauche nationaliste représentait 20% pratiquement de l'électorat basque. Et c'est elle qui soutenait d'une certaine manière, malgré que ce soit les militaires qui gagnaient sur les politicos. Et ensuite, à partir de l'an 2000, il y a eu un processus de paix. Il y en avait eu, je vais aller vite, hein, il y en a eu auparavant, avec Felipe González en 1989 en Algérie. Les négociations ont échoué. En 1998, avec M. Aznar, en Suisse également, qui ont échoué. Et ensuite, il y a eu l'opération Zapatero, qui était beaucoup plus sérieuse. C'était l'ETA qui était à bout de souffle et qui voulait effectivement négocier. Mais les dirigeants les plus radicaux ont dit non et ont mis cette bombe, vous vous rappellerez, c'était en 2007, je crois, à l'aéroport de Madrid, qui a fait deux morts. Et toute la négociation s'est interrompue avec l'organisation terroriste. La réflexion s'est faite au sein de l'organisation de son bras politique, qui a permis finalement, en 2011, que l'organisation séparatiste ETA décide l'adieu aux armes. C'était en 2011, le 20 octobre. Cela fait 6 ans exactement. Il n'y a pas de processus de paix, il n'y a pas de négociation. Et c'est ce que je critique, et nous critiquons beaucoup de gens. Pour ceux qui ne savent pas, tout d'abord, le Pays basque a l'une des autonomies les plus grandes de toute l'Europe. Nous avons un gouvernement basque. Nous gérons nos propres impôts. Il y a une police basque qui dépend du gouvernement basque. La santé, l'éducation, l'université, tout dépend du gouvernement basque. Et des impôts que nous récoltons, nous donnons une partie à Madrid, selon un accord qu'on appelle du concert économique. Ce concert économique que n'ont pas les Catalans, c'est pour ça qu'ils ont le problème qu'ils ont actuellement. Mais qu'ils ne l'ont pas voulu parce qu'on leur avait proposé il y a 30 ans. Les Basques l'avaient accepté, c'est une vieille loi de 1878, le concert économique, ils le récupèrent, et donc c'est un privilège, c'est une autonomie beaucoup plus développée que les Landers allemands. Mais malgré ça, l'ETA continuait. Donc on vient à la fin de l'histoire, l'ETA, le politique dit aux militaires, c'est fini, on termine. Les gens ne nous appuient plus, on a à peine 5% de gens qui sont avec nous, on rend les armes, donc d'abord on déclare l'adieu aux armes, ils ont rendu les armes en avril de cette année, les armes, ils avaient quelques armes encore, en espérant que le gouvernement espagnol, comme dans tout processus, fasse appel et on puisse arriver à une négociation à ce soir. Négocier en particulier les 300 prisonniers qui restent. Il y avait 800 prisonniers il y a 5-6 ans. Des 300 prisonniers, il y en a 64 en France. Et c'est là où je critique, moi personnellement, l'attitude du gouvernement espagnol et de Mariano Rajoy, qui n'a absolument rien fait depuis l'adieu aux armes de ce fameux communiqué du 20 octobre 2011. Il n'a rapproché aucun prisonnier. Et je crois que c'est une erreur. Lorsqu'on laisse pourrir les choses, elles peuvent s'envenimer. Je crois qu'il n'y aura plus de violence au Pays Basque. Je crois que l'histoire est finie. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert, et là on doit rentrer dans un processus, je ne dis pas de négociation parce que l'État a pratiquement disparu, il ne manque plus que sa dissolution, mais oui faire une réflexion sur la mémoire, une réflexion effectivement sur les récits qu'il y a eu. Il faut raconter ce qui s'est passé, il faut parler de réconciliation, le Pays Basque, on commence à vivre. Les gens qui vous regardaient avec de la haine parce que vous aviez écrit contre le théâtre ou parce que vous êtes directeur d'un journal, cette haine a disparu. La société avance beaucoup plus vite que les politiques, généralement, et c'est bon signe. Mais il faut régler les problèmes. Et je dis, la réparation est importante, la justice et la mémoire. Et là, nous sommes dans un stand-by qui me préoccupe. À Paris, rien n'avait été fait sans l'autorisation de Madrid, mais paraît-il que maintenant, le Premier ministre et Macron sont en train de faire bouger un peu les affaires concernant les prisonniers basques, dirigeants de l'organisation, qui sont dans les prisons françaises, à Lille, à Nantes, à Marseille, pour les rapprocher. Parce que c'est injustifiable qu'un prisonnier, que la famille d'un prisonnier, même s'il est terroriste, fasse 1000 kilomètres pour aller voir son fils ou sa fille. Moi, j'ai toujours dit, les barreaux de Séville ou les barreaux de Lille sont les mêmes que les barreaux de Bilbao. Donc, mettez-nous à Bilbao. Et ensuite, faisons un processus que l'organisation est en train de faire, qui ne voulait aucun bénéfice judiciaire. Paraît-il que maintenant elle accepterait, donc on est dans une voie qui va permettre d'ouvrir. Le gouvernement basque est très clair, il est nationaliste modéré, il dit à M. Mariano Rajoy, faites quelque chose. Moi j'ai vu Mariano Rajoy il y a 2 ans, je dis, président, faites quelque chose pour terminer cette histoire, qui a duré 50 ans. Il me dit, Gorka, mais c'est pas dans l'agenda. Mais j'ai dit, mettez-le dans l'agenda. Il dit, on verra. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Mais je crois qu'on va avancer pour mettre fin à toute cette histoire, parce que c'est le plus important. Moi, j'ai rencontré des gens de l'ETA en prison qui ont voulu me voir. J'ai passé 2h30 il y a 6 ans avec 7 membres de l'ETA. On a discuté de toute la violence, de tout. C'était des gens qui s'étaient repentis, très peu, mais qui faisaient partie des commandos de Madrid, qui avaient fait des assassinats incroyables. Mais ils ont fait une réflexion. Donc je demande également à cette gauche nationaliste qui appuyait le TA longtemps, à l'organisation TA, qu'elle fasse également à un moment donné son autocritique. J'espère, je ne sais pas si je le verrai, mais j'espère qu'ils le feront un jour. Et ensuite, on doit travailler pour confirmer la paix. Et la paix, c'est travailler pour la paix. Hein, comme disait Eleanor Roosevelt, il disait, la paix, c'est très bien, mais il faut la travailler tous les jours. Ça, c'est important. La paix ne vient pas par miracle. Je termine. 3 minutes. Donc, nous sommes un peu dans cette situation de stand-by. Je crois que maintenant, les nouvelles générations vont digérer. Nous, on a passé des épreuves très difficiles, très dures, surtout quand on était attaqué directement. Mais je crois qu'il faut également travailler sur cette reconnaissance et la mémoire. Et je dis toujours qu'il est important... Pratiquement dans tous les conflits, bien que tous les conflits sont également différents. N'oublions pas les victimes, qui sont les grandes perdantes de tous les conflits. Parce qu'on parle des généraux, de la FARC, du président de Colombie, etc. Mais on parle très peu des victimes, des familles, des parents. Il ne faut pas les oublier. Et dans un conflit, si on veut terminer sur la paix... Il faut tenir compte des victimes. Ce n'est pas elles qui vont décider la fin de la violence, la paix ou la politique, mais les victimes ont droit à une reconnaissance. Et ça fait partie de la mémoire. Et n'oublions pas ce qui s'est passé dans chacun de nos pays, parce que nous n'allons pas construire le futur. Moi, je dis que la vie, c'est comme conduire une voiture. Quand on conduit une voiture, on a besoin des 2 mains. Il faut regarder en face. Mais si on n'a pas un bon rétroviseur, qui est la mémoire et le récit de ce qui s'est passé, jamais on ne conduira de façon satisfaisante. Merci.